Bonjour à tous. J'aimerais partager avec vous un texte qui est un texte que vous connaissez. Il y a des textes comme cela qui sont des passages incontournables, des récits qui sont déjà installés dans nos mémoires, et celui-ci en fait partie. Il se trouve dans le livre de l'Exode au chapitre 3. Il y a un titre à ce passage. Le buisson ardent. Non. Déjà en disant ce titre, je suis sûr que chacun a l'image, la représentation de ce qui se passe. Au chapitre 3, Moïse faisait paître le troupeau de Jéthro, son beau-père, sacrificateur de Madian. Il mena le troupeau au-delà du désert et se rendit à la montagne de Dieu, à Horeb. L'ange de l'Éternel lui apparut dans une flamme de feu au milieu d'un buisson. Moïse regarda, et voici que le buisson était tout en feu, mais que le buisson ne se consumait pas. Moïse dit, je vais faire un détour pour voir quel est ce spectacle extraordinaire et pourquoi le buisson ne brûle pas. L'Éternel vit qu'il faisait un détour pour voir, et Dieu l'appela de l'intérieur du buisson et dit, Moïse, Moïse. Il répondit, me voici. Dieu dit, n'approche pas d'ici, ôte tes sandales de tes pieds, car l'endroit sur lequel tu te tiens est une terre sainte. Et il ajouta, c'est moi le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Moïse se cacha le visage, car il craignait de diriger ses regards vers Dieu. L'Éternel dit, j'ai bien vu la misère de mon peuple qui est en Égypte et j'ai entendu son cri à cause de ses oppresseurs, car je connais ses douleurs. Je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens et pour le faire monter de ce pays dans un bon et vaste pays, dans un pays découlant de lait et de miel, dans la région où habitent les Cananéens, les Hittites, les Amoréens, les Phéréziens, les Héviens et les Yébousiens. Maintenant, le cri des Israélites est venu jusqu'à moi et j'ai vu l'oppression que leur font subir les Égyptiens. Maintenant, va! Je t'envoie vers le Pharaon. Fais sortir d'Égypte mon peuple, les Israélites. Moïse dit à Dieu, qui suis-je pour aller vers le Pharaon et pour faire sortir d'Égypte les Israélites? Dieu dit, je suis avec toi. Et voici quel sera pour toi le signe que c'est moi qui t'envoie. Quand tu auras fait sortir d'Égypte le peuple, vous rendrez un culte à Dieu sur cette montagne. Moïse dit à Dieu, j'irai donc vers les Israélites et je leur dirai, le Dieu de vos pères m'a envoyé vers vous, mais s'ils me demandent quel est son nom, que leur répondrai-je? Dieu dit à Moïse, je suis celui qui suis. Et il ajouta, c'est ainsi que tu répondras aux Israélites. Celui qui s'appelle Je suis m'a envoyé vers vous. Oh. Ça fait partie de ces textes fondateurs de la foi d'Israël, mais aussi de la foi chrétienne. Un texte qui met en avant cette vision de Moïse en Horeb. Cet appel de Moïse à rentrer dans ce que Dieu a prévu pour lui et pour Israël. Je ne doute pas que vous soyez connaisseur de ce texte, que vous ne l'ayez pas déjà lu, entendu, voire avoir été enseigné dessus. Ce texte-là, moi j'aime bien le relire et le relire encore, parce qu'il nous parle non seulement de l'appel de Moïse, mais il parle du peuple de Dieu, il parle de Dieu et il parle de nous. Ce qui est vrai pour le peuple d'Israël en termes de révélation est vrai pour nous dans notre démarche à rentrer dans une révélation de Dieu. Dieu veut se révéler, Dieu veut se faire connaître. Alors on est là dans un symbole fort, le symbole du buisson ardent. Lorsque le protestantisme est né, un des tout premiers symboles protestants, ça a été le buisson ardent. Vous le saviez? Alors je vais vous le montrer, ce symbole. Il date de 1569. Et il va rester affiché pendant, pendant toute la durée de mon intervention. Le buisson ardent, c'est ce qui est représenté sur ce sceau. Ce sceau date de 1569, c'est-à-dire une quarantaine d'années après, 42 ans, après que Luther ait placardé ses thèses sur l'Église de Wittenberg pour s'opposer à ce que l'Église vivait et proposait au monde. Luther, en 1517, est allé sur l'Église, lui qui était un moine, qui faisait partie du catholicisme, et ayant découvert la foi en Jésus-Christ et le fait qu'il n'était pas nécessaire de faire quoi que ce soit pour être sauvé, mais simplement de croire, il avait relu en pratiquement une nuit l'épître de Paul aux Romains qui venait d'être traduite dans une version nouvelle, fortement accessible en latin. Tout le monde a lu l'épître d'Érasme de Rotterdam en latin, qui donnait enfin accès au texte original. Non ? C'est en cours. Luther, quand il a eu cette nouvelle traduction, il a découvert que Dieu sauvait par la foi et non par les œuvres. Et c'est ce qui a transformé le monde dans les années qui ont suivi. Il a été placardé plus de 90 thèses en disant « Je ne suis pas d'accord avec ça, je ne suis pas d'accord avec ça, je ne suis pas d'accord avec cela ». Il n'y avait pas Internet à l'époque. Et lorsqu'il a placardé ses thèses, ça a été la naissance, sans qu'il le sache, du protestantisme. Et 40 ans après, les protestants français ont choisi ce sceau pour le marquer les documents où ils disaient « voilà ce que nous sommes ». Alors c'est un sceau qui est assez étrange. Ici, vous avez en chiffres romains l'année 1569. Et puis vous avez au-dessus le mot d'ordre que les protestants ont choisi à cette époque-là, flagror non consumor. Là, c'est du latin. Et ça veut dire tout simplement, il brûle mais ne se consume pas. Et au milieu, vous avez le buisson ardent et vous avez le tétragramme Yod-He-Vav-He, Yahvé ou Yéhovah, c'est-à-dire le nom de Dieu, le nom par lequel Dieu s'est révélé à Moïse. Et les protestants, vous avez synode de France, in Gallia, hein, et Reforma Tae, ça veut dire Église réformée de France, Gallia. Et en fait, c'est le sceau de 1569 où les protestants ont dit on brûle, mais on ne se consume pas. On peut être attaqué, on peut être brûlé, on peut être persécuté, mais on ne se consume pas, on ne disparaîtra pas. Et ce sceau a été adopté par les églises irlandaises et écossaises. Vous savez, ces petites équipes qu'on a battues récemment au rugby. Donc voilà, c'est le sceau des protestants. Alors je vais le laisser là, parce que nous avons dans notre église mis en place une commission de communication. En 1569, les protestants avaient déjà une commission de communication. On n'a rien inventé. Et dans leur communication, ils voulaient dire au monde, voilà, on peut brûler, mais on ne se consumera pas, parce que la vie de Christ est en nous. Je vais vous laisser ça sous le regard. Lorsque Moïse est dans ce récit appelé par Dieu, il est dit qu'il faisait paître le troupeau de Jéthro, son beau-père. Il était dans le désert et il va même dans un endroit, l'Horeb, qui est considéré Horeb comme un lieu sec parce que c'est son nom. Horeb, c'est l'autre nom du mont Sinaï et ça veut dire sécheresse. Vous me direz, comment se fait-il qu'un homme qui s'occupe de troupeaux, va les conduire dans un lieu sec pour les nourrir. C'est un texte fortement symbolique. Il faut parfois passer par des lieux secs, par des déserts, pour que Dieu se révèle, pour que Dieu nous parle. J'ai entendu une prière. Il faut aussi parfois passer par des temps d'épreuves, de combats, de difficultés, pour que Dieu se révèle à nous au travers de ces choses. Alors, ce n'est pas les moments qu'on préfère. On est bien d'accord. Mais ce ne sont pas des lieux ou des espaces où Dieu n'est pas. Dans ce désert, Moïse va être confronté à cette vision d'un arbrisseau qui est en train de brûler, mais qui ne se consume pas. En fait, dans la Vulgate, la traduction de cet arbrisseau, c'est rubus, ça veut dire ronce. C'est pour ça que dans beaucoup de textes, y compris dans la traduction, une des dernières traductions de la Bible, le titre, c'est le roncier. C'est pas le buisson ardent, c'est le roncier. Vous me direz, un roncier, est-ce que vous y faites attention? Est-ce que vous y êtes attentif? Est-ce que dans les montagnes, vous vous extasiez devant un roncier en disant « Oh, qu'est-ce que c'est beau !» Non, rarement. Et pourtant, c'est là, dans ce désert du Sinaï, Horeb, Sinaï, c'est la même chose, qu'il y a ce buisson qui brûle, mais sans se consumer. Il y a beaucoup de tableaux. Il y a un triptyque très connu dans le sud de la France qui a été commandé par le prince René le Bon et qui, c'était pendant la guerre de Cent Ans, a demandé un triptyque avant de passer de la vie à la mort et qui représente un buisson ardent. C'était pour lui une manière de dire « la vie demeure ». On ne se consume pas en Christ, on ne disparaît pas. Cet emblème annonçait à Moïse la résistance du peuple d'Israël malgré sa fragilité, face à la persécution, face à l'ennemi que représentaient les Égyptiens. On peut dire aussi que ça s'applique à l'Église chrétienne. Lorsqu'ils ont choisi, les protestants, ce sceau-là, ils étaient persécutés. Ils ont dû aller se réfugier dans un pays qui n'était pas terrible, qui s'appelle la Suisse, en Europe. Ils sont tous réfugiés là-bas. Hein ? Ils étaient persécutés. Et malgré la persécution, ils ont dit « on ne disparaîtra pas ». Et la Suisse a été un refuge où le christianisme s'est répandu, non seulement dans le pays, mais dans le monde entier. On voit des Suisses partout aujourd'hui. Hein, souvent, quand je regarde des émissions sur la nature, on les voit partout. Ils ne sont pas nombreux, hein, mais on les voit partout. J'ai envie de dire que c'est aussi le fruit de leur position spirituelle. Ils ont protégé la réforme de Dieu. Ils ont laissé, là aussi, se proclamer l'Évangile. Ce sceau me fait penser, la semaine dernière, je partageais des textes sur le Cantique des Cantiques. Et dans le Cantique des Cantiques, il est dit par le bien-aimé, ou la bien-aimée, « Mets-moi sur mon corps le sceau de ta personne. Marque-moi du sceau de ton amour. » Le sceau, c'est ça. Il est vivant. Il est vivant. Il demeure à jamais. Lorsque dans on prend cette image-là, le symbole du buisson ardent, c'est dans un premier temps Dieu qui se révèle comme le Dieu de la vie. Le Dieu de la vie, pas seulement dans cet épisode de l'Exode, mais on le retrouve notamment dans Marc au chapitre 12, verset 26, mais dans Luc aussi, où lorsque Christ est confronté aux Sadducéens qui l'interpellent sur la résurrection. Et les Sadducéens étaient des Juifs qui ne croyaient pas en la résurrection. Eh bien, Christ, on va le lire en Marc 12, 26, leur répond ceci. Quant aux morts et à la résurrection, n'avez-vous pas lu dans le livre de Moïse ce que Dieu lui dit auprès du buisson, « Je suis le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. Dieu n'est pas le Dieu des morts, mais des vivants. Votre erreur est grande. » Dieu est le Dieu des vivants, pas des morts. Ah, et le buisson dont Jésus fait mention, c'est cela, c'est ce temps de révélation. Lorsque Moïse est là, Dieu se révèle comme le Dieu de la vie. C'est Étienne, là aussi, qui insiste sur l'appel de Dieu à Moïse, le libérateur, et distingue l'aide de l'ange apparu dans les flammes du puissant. L'ange de l'Éternel que Jésus voit, il dit souvent que l'ange de l'Éternel, c'est une théophanie, c'est-à-dire une révélation avant sa venue dans son incarnation de Jésus-Christ. L'ange de l'Éternel, c'est pas n'importe quel ange. L'envoyé de Dieu, angelo, c'est l'envoyé de Dieu. J'ai envie de dire que l'envoyé de Dieu, le Christ, est celui qui apparaît au milieu du buisson pour dire « Dieu est le Dieu de la vie ». Et s'il y a quelqu'un qui aujourd'hui, dans notre temps, notre vie se révèle, c'est Christ qui dit « Je suis la vie ». Je suis pour toi la vie. Pas simplement le pardon des péchés. Je suis la vie qui peut couler en abondance dans ton existence. Hein ? Le buisson ardent, ce roncier, c'est aussi une révélation de Dieu dans toute son humilité. Dieu se révèle de manière humble. C'est pas terrible un roncier, on vous l'accordera. Ce sont des buissons remplis d'épines, pas forcément magnifiques par leur floraison, quoique parfois ça peut être joli, mais c'est surtout quelque chose qui égratigne les oiseaux qui se protègent. En Afrique, on met des ronciers autour des troupeaux pour éviter que les lions, que les animaux sauvages viennent attaquer les troupeaux. Les ronciers, c'est quelque chose qui vient protéger, qui repousse, mais ce n'est pas quelque chose qui est esthétique. C'est quelque chose de simple. Et j'ai envie de dire que Dieu se révèle, fait le choix de se révéler au travers d'un roncier. Il aurait pu choisir un baobab, un chêne, un arbre majestueux. Non, c'est un roncier. Parce que Dieu, ce Dieu puissant, éternel, grand, créateur, c'est un Dieu qui, s'il a créé le ciel, les galaxies qui ne peuvent même pas le contenir, c'est un Dieu qui s'incarne dans les réalités les plus dérisoires de notre monde, de nos vies. Je ne sais pas pour vous, mais combien de fois Dieu s'est révélé à moi dans ma vie, dans mes chemins, par des choses tellement simples. Des personnes parfois qui n'étaient pas des grands prédicateurs, des grands hommes de Dieu, mais Dieu a placé sur ma route un homme, une femme. Et sa parole a transformé ma vie, m'a conduit dans des directions nouvelles. C'est un rabbin qui s'appelait Yoshua ben Korha, au VIe siècle, qui a été interpellé par un non-juif. Et qui lui a dit, mais pourquoi Dieu a-t-il choisi de parler à Moïse à partir du buisson? Et le rabbin Yoshua ben Korha lui a répondu, et si c'était à partir d'un caroubier ou d'un sycomore, m'aurais-tu également posé la question? Enfin, pour ne pas te laisser sans réponse, apprends que cela nous révèle que nul endroit au monde n'est dénué de présence divine, et même le buisson. J'aime cette réponse. Il n'y a pas un endroit, même le plus modeste, où Dieu ne peut pas être là pour se révéler. J'ai entendu une amie très proche qui a, pendant de longues années, m'a dit « Je ne vaux rien, je ne suis rien. » Aujourd'hui, cette personne, je vois la présence de Dieu en elle. Et peut-être que tu es ce matin aussi dans cette position de penser que tu ne vaux rien, que tu n'es pas plus qu'un buisson. Alors que quand on voit des chaînes comme cela, hein, comme Michel, on se dit « Oh, ouais, que suis-je ?» Ouais. Mais même dans un buisson, Dieu peut se révéler. Et puis, je vous rappelle cette parole du prophète Ésaïe qui disait « Qui a cru à ce qui nous était annoncé ? Qui a reconnu le bras de l'Éternel ? » C'est-à-dire, qui a vu le Messie ? Il s'est élevé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté, ni éclat pour attirer nos regards, et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Méprisé, abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage, nous l'avons dédaigné. Nous n'avons fait de lui aucun cas. Il parle, Ésaïe, du Messie à venir, du Christ. Quand Christ est né, il n'avait ni éclat. Il n'est pas né dans un palais comme les mages pouvaient le supposer en allant voir à Jérusalem le palais du roi Hérode. Ils ont dû continuer leur route pour aller jusqu'à une crèche, un abri pour les bêtes. Et ils ont trouvé le roi des rois. Il n'avait pas d'éclat. Dieu s'est fait présent, s'est révélé dans l'humilité. Le buisson ardent, ce n'était qu'un buisson. Mais à l'intérieur de ce buisson, Dieu voulait se révéler à Moïse. Et quand on voit ce nom gravé sur ce sceau, Dieu, Yahvé, celui qui est. Yahvé, ça veut dire ça. C'est celui qui est. Vayehi, Vayeha. C'est la formule exacte. Je suis celui qui est. Est-ce que Christ est cette révélation pour moi, dans ma vie ? Et s'il l'est, il veut devenir aussi cela dans la vie de son peuple. Que ce soit Israël, que ce soit l'Église, il veut aussi que ce buisson tellement imparfait, peu glorieux, face à ce que nous présente le monde, que ce buisson puisse révéler le nom et la gloire de Dieu. Israël, ce n'est pas la Russie, avec ses divisions et ses avions de chasse, ce n'est pas les États-Unis non plus. Je ne sais pas à quel rang il se situe dans la puissance, mais ils sont là et ils demeureront là parce que ce buisson d'Israël est habité par la présence de Dieu ou les promesses de Dieu. Moi, j'aime beaucoup cette histoire. C'est pendant avant que les Arabes attaquent Israël et qu'il y avait Rabin, Golda Meir et puis Moshe Dayan qui dirigeaient Israël. Et puis toutes les nations arabes se faisaient une coalition. Et puis là, les trois étaient là en se disant « Mais qu'est-ce qu'on fait ? Qu'est-ce qu'on va faire face à cette opposition ?» Et puis il y a Golda Meir qui a été Premier ministre qui dit « Mais moi, j'ai bien une idée. Il faudrait attaquer les États-Unis, la France, l'Angleterre, l'Allemagne et la Russie. » Et puis les autres disent « Mais il y a Rabin qui dit mais pourquoi on ferait ça ?» Il dit « Mais regardez, le Japon a déclaré la guerre au reste du monde, l'Allemagne aussi. Quand ils ont perdu, en fait, après, ce sont devenus des puissances économiques formidables. » Donc il faut les attaquer, comme ça on deviendra après une puissance économique incomparable. Puis il y a Rabin qui regarde ses deux collègues au gouvernement et il dit « Oui, mais si on gagne ?» Parce qu'on a beau être... Et cette petite histoire parle tout simplement de la foi qu'il y a, que ce buisson, quand il est habité par la présence de Dieu... Rien ne peut le détruire. L'Église est de cette même nature. Si l'Esprit Saint de Dieu, si Dieu lui-même est en elle, eh bien le monde ne pourra pas la détruire. Ça fait pourtant plus de 2000 ans que le monde essaye d'éradiquer l'Église, de l'empêcher d'être le témoin de Dieu sur cette terre, d'ouvrir une porte sur l'espérance qu'il y a en Christ. 2000 ans après, ils n'y sont toujours pas arrivés. Depuis combien de temps l'ennemi peut-être s'acharner sur vous ? Depuis que vous lui appartenez, ça fait combien ? 5 ans, 10 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans ? plus pour certaines. L'ennemi s'acharnera. Mais tant que la présence de Dieu sera là, buisson que vous êtes, vous ne vous consumerez pas et vous ne disparaîtrez pas. C'est là la promesse de Dieu au travers de cette révélation de Moïse. Alléluia. Moi, je te dis que tu es Pierre et que sur cette pierre, je bâtirai mon église et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. C'était la promesse que Dieu faisait à un homme comme Pierre suite à sa proclamation « Tu es le Christ, le Fils de Dieu. » Ouais. Lorsque nous lisons ce texte, on a Dieu qui parle à Moïse qui lui dit « J'ai bien vu la misère de mon peuple. J'ai vu les souffrances de mon peuple. » Et le « j'ai vu » vient répondre au « je vois » de Moïse. Moïse voit quelque chose. Et Dieu lui dit « Moi aussi j'ai vu, mais je n'ai pas simplement vu ce que je suis. J'ai vu les souffrances de mon peuple. Alors je vais agir. Alors je vais faire de toi le libérateur. Alors je vais utiliser ce que tu es, qui tu es, comme tu es. Avec tes imperfections. » On oublie souvent que Moïse, quand il a répondu à Dieu, il a dit « Mais je ne sais pas parler. » En fait, le terme hébraïque, c'est qu'il était bègue. C'est vrai qu'en management du personnel, le Seigneur, on a parfois des doutes. Hein. Choisir un bègue pour libérer Israël et l'envoyer pour parler à Pharaon, moi, j'ai dirigé du personnel, j'ai fait des entretiens. Moi, un bec qui vient pour être porte-parole, j'ai mis des réserves. Oui. Mais je me dis que quand je me vois tout au long de ma vie avec ce que je suis, ce que j'ai été, mes fragilités, mes manques. Comment Dieu a pu m'appeler? Et en fait, Dieu me voit non seulement tel que je suis, avec mes manques et mes fragilités, mais il voit aussi ce qu'il a déposé et qui est en rapport avec mon appel. Et c'est vrai pour chacun d'entre nous. Nous pouvons avoir un niveau d'estime de nous-mêmes très bas. Je ne vaux rien. J'ai plein d'incompétences. Et puis Dieu voit ce qu'il a déposé et qui n'est pas encore en train de naître, de pousser, de grandir en nous. Est-ce que tu veux laisser une chance à Dieu pour devenir ce qu'il a pensé, ce qu'il a dans son cœur pour toi, dans ta vie? Pas simplement pour servir, mais simplement pour grandir et être. Parce que c'est là le miracle de Dieu dans le salut. Moïse dit « Je suis ceci, je suis cela », mais Dieu lui dit « Mais moi, je vois déjà qui tu es, qui tu seras. » Jéthro, c'est le beau-père de Moïse. Jéthro, ça veut dire « abondance et excellence ». Moi, j'aime bien lire les noms qu'on a attribués aux personnages parce que ça dit quelque chose d'eux ou de ce qu'on attend d'eux. Vous savez, Élimélec, dans le livre de Ruth, il avait appelé ses deux fils maladifs et malportants. Déjà, vous voyez, ça dit quelque chose du regard qu'il portait sur ses fils. Là, j'ai trop... Il est dit qu'il était sacrificateur, qu'il croyait en Dieu, mais son nom, ça veut dire abondance, excellence. Et c'était le beau-père de Moïse. Alors, il habitait sous la tente de l'excellence et de l'abondance. Mais vous savez que Jéthro avait un deuxième nom. Il était connu sous le nom de Réuel. Réuel. On le lit dans d'autres passages de l'Écriture qui nous parlent notamment dans les généalogies de Jéthro. Et Réuel, ça veut dire quelque chose que vous connaissez, ça veut dire ami de Dieu. Waouh ! Eh ! On parle souvent de David qui était l'ami de Dieu, n'est-ce pas ? Moïse habitait sous la tente de l'abondance et de l'excellence aux côtés d'un ami de Dieu. Il peut y avoir pire comme tente où habiter, non ? Et pourtant, il a beau habiter sous la tente de l'excellence et de l'abondance et avoir pour beau-père un ami de Dieu, il y a un moment incontournable pour lui qui est la nécessité d'une révélation de Dieu pour sa vie. Il ne suffit pas de venir à l'église, d'habiter sous la tente de l'abondance et de l'excellence. Il ne suffit pas d'être assis à côté de Corinne qui est amie de Dieu ou de Christine ou de... Non, ça ne suffit pas. Encore faut-il qu'étant là, je reçoive une révélation personnelle de Dieu pour moi. Et les paroles qu'on a entendues ce matin, cette parole qui disait « qui je suis ». Le « qui je suis », c'est pas « ah, moi, qui je suis ?» Je suis une personne qui vient le dimanche matin au 6 boulevard rue Herriot à Quévin. Et donc, là, je suis avec une église, des chrétiens. Donc, voilà, je suis là. Ça ne me définit pas. La question, c'est qui je suis dans mon rapport et dans ma révélation de Dieu pour moi et de Dieu pour me faire découvrir qui je suis en lui. Là, c'est une révélation indispensable. Moïse ne pouvait pas dire, quand on le rencontrait, « Qui es-tu ? » « Ah ben moi, je suis le gendre de Jéthro, celui qui est dans l'abondance. » Et qui est ami de Dieu. Mais ça ne te définit pas. Toi, qui es-tu ? Quelle est ton identité ? Quelle est la révélation que tu as reçue de Dieu pour ta vie ? Et c'est pour ça que Moïse est confronté à ce buisson ardent. Afin d'avoir une révélation personnelle. Il a tué un Égyptien qui persécutait un Juif. Il a dû fuir, il a tout perdu. Il a perdu son statut de prince en Égypte, d'héritier, là aussi, de ce monde. Et il est parti dans le désert. C'est là qu'il a rencontré le père de sa future femme et qu'il est entré à son service. Il garde des moutons. Bon, c'est loin du statut de prince. Mais il a vu la persécution des Juifs dont il est issu. Et là, Dieu l'appelle, lui parle, pour dire qui elle est, ce qu'il attend de lui. Le buisson ardent, pour les Juifs, c'est un symbole de la Torah, de la parole de Dieu. Ah, bah, bien sûr, parce que d'abord, celui qui est au centre de ce récit, c'est Moïse, et que Moïse, c'est l'auteur de la Torah, la Genèse, l'Exode, le Livre des Nombres, j'en ai oublié un, Genèse, Exode, Lévitique, Nombre, Deutéronome, voilà. Et donc, ils disent, bah, c'est un symbole de la Torah. C'est une vision de Dieu qui interpelle Moïse sur le mont Sinaï, mais qui le ramènera quelque temps après sur le Sinaï afin de lui donner les 10 commandements. Et pour les Juifs, buisson, c'est séné, et c'est très proche de Sinaï. Donc ils disent, voilà, Séné, Sinaï, buisson, roncier, Sinaï, c'est une manière de dire, voilà, cette montagne-là, elle a un sens. Et en fait, il est dit que le buisson était en feu. Mais lorsque Moïse reviendra sur le mont Sinaï pour recevoir les 10 commandements, il est dit que la montagne était en feu. La montagne, c'est-à-dire habitée par la présence de Dieu. Le premier détour qu'il est à faire pour trouver la loi de vie, c'est en lui-même, disent les Juifs, parce qu'elle est gravée dans son cœur. Et en fait, les rabbins font cette explication, c'est qu'il s'agit ici d'une parole, les tables de la loi qui sont gravées dans le feu et par le feu, et que ce n'est pas un parchemin. Il n'a pas reçu un rouleau, Moïse, mais des tables en pierre qui sont gravées par le feu. Ce n'est pas quelque chose qui est déposé par de l'encre sur le parchemin, mais qui est gravé à l'intérieur même de la pierre. La loi surgit de l'intérieur de la conscience du peuple habité par Dieu. Quand je relisais ce commentaire juif, je me disais, mais le buisson ardent, c'est le lieu de la révélation au Sinaï de la Torah, c'est-à-dire de la parole de Dieu. Et je me disais, mais dans le feu et par le feu, est-ce que la parole de Dieu brûle en vous? Moi, je viens de passer 2 ans à faire un travail doctrinal, et il y a des fois dans mon bureau, confronté à la parole de Dieu, il n'y avait pas le feu, mais c'était pas loin. Tellement j'étais confronté à des réalités spirituelles que je trouvais mais tellement fabuleuses. Tellement fabuleuses. Et ça me faisait penser cette interprétation de dire le buisson ardent, c'est aussi la révélation d'un Dieu qui parle, d'une parole qui se grave par le feu et dans le feu. Et vous savez qui est-ce qui disait cela? Ces deux pèlerins, après la crucifixion de Jésus et sa résurrection, qui le rencontrent et qui vont vers Emmaüs. Et quand ils sont séparés de Jésus, après le partage du pain et de la coupe, qui disent « Notre cœur ne brûlait-il pas au-dedans de nous lorsqu'il nous parlait en chemin et nous expliquait les Écritures ?» Notre cœur ne brûlait-il pas quand la parole de Dieu nous est ouverte? Est-ce que ça vous est arrivé? Est-ce que ça vous arrive? Est-ce que ça vous donne envie d'ouvrir l'Écriture et de dire, comme ces pèlerins d'Emmaüs à la fin de l'Évangile de Luc, notre cœur brûlait quand il nous ouvrait l'Écriture, parce que c'était quelque chose de tellement fabuleux. Est-ce que vous brûlez? Moi, je vous invite à ouvrir l'Écriture pour y rencontrer un Dieu qui se révèle, qui parle, qui dit, qui ouvre nos regards à des choses tellement fabuleuses. Alléluia. Le buisson ardent, c'est aussi un buisson qui parle de la curiosité spirituelle. Moi, j'aime beaucoup cette notion. J'ai eu un beau-père qui était ouvrier en mécanique. Moi-même, j'ai commencé ma carrière dans la mécanique aéronautique. Lui, c'était un ouvrier d'une entreprise, Stelram, en Suisse. Et voilà, il a passé toute sa vie dans cette entreprise. C'est un homme qui m'a aimé et que j'ai aimé profondément. Et quand je parle de lui, la qualité première, il s'appelait Charles, de Charles, ou on disait Charlie, sa qualité première, c'était pour moi la curiosité. À 80 ans, 82 ans, 83 ans, je crois qu'il est décédé à cet âge-là, il était toujours aussi curieux. Il pouvait pas, on marchait dans la rue, et il pouvait s'arrêter devant une plante, devant une personne, devant un bateau. Et il était toujours curieux. Il demandait des renseignements. Oui, mais ça, il était ouvert avec une curiosité permanente. C'était un spécialiste des champignons. Il continuait à aller dans les bois, à ramasser des champignons, à chercher ce que c'était, etc. Cette curiosité m'a toujours émerveillé. Je me suis dit, j'espère que je serai toujours aussi curieux jusqu'à la fin de ma vie. Et en fait, dans ce récit, le buisson ardent, ce qui a généré du changement dans la vie de Moïse, c'est sa curiosité. Je vois quelque chose et ça m'intrigue. Un buisson, un roncier qui brûle mais ne se consume pas. Je vais aller voir. Et j'ai envie de dire, parfois, j'ai le sentiment qu'en tant que croyant, on n'est pas très curieux des choses de Dieu. On n'a pas la curiosité d'aller voir. La curiosité de Moïse, ça a changé sa vie. Ça a généré la libération d'Israël du joug des Égyptiens. Ça a conduit le monde à entendre parler du Dieu créateur, l'annonce de Jésus. Simplement parce qu'il a vu quelque chose et qu'il a été curieux pour aller voir ce que c'était. Est-ce que Dieu ne place pas sur notre route des signes de cette nature, mais que nous négligeons en disant « wouf, wouf, bof ». Il y a la nouvelle série sur Netflix, ça je vais être curieux, je vais aller voir. C'est pas ça parfois? Est-ce que la traite ce monde, Je ne dis pas que tout est mauvais, mais est-ce que l'attrait de ce monde n'est parfois pas plus générateur d'envie et de désir que les choses de Dieu? Si Moïse n'avait pas eu cette curiosité-là, s'il n'avait pas pris le temps d'aller voir exprès, il aurait continué son chemin sans entendre Dieu lui parler. Et il ne serait jamais devenu ce qu'il a été. Je suis certain, en ce qui me concerne, vous, je ne sais pas, mais que j'ai pu être inattentif aux petits signes de Dieu, aux buissons qu'il a placés sur ma route. J'espère simplement que j'ai été assez honnête pour que, ayant manqué de curiosité, et sachant que Dieu est un Dieu de grâce, qu'il n'ait pas renouvelé ses signes dans ma vie pour que je sois durablement passé à côté. Je l'espère, je le souhaite, parce qu'un jour j'aurai à rendre des comptes à Dieu, comme toi et moi. Et qu'est-ce que je dirais ? Moi, je ne l'avais pas vu, Seigneur. Ah, moi, je t'assure, il y avait bien un truc là, mais je ne l'ai pas vu. Une fois, deux fois, trois fois. Est-ce que les signes que Dieu met sur notre route, nous allons les négliger afin de ne pas devenir ce que nous sommes appelés à être? Cette proclamation, moi j'aime beaucoup ce sceau, il brûle mais ne se consume pas. Ça parle de reconnaître Dieu dans l'humilité de ce qu'il met devant nous. Ça parle du fait que aucun mal ne pourra me consumer, aucune épreuve, aucune difficulté. Ça parle aussi que nous pouvons être préservés de l'angoisse devant les stérilités de notre propre vie. Moïse était dans le désert. Il pouvait se dire, mais oh, dire que j'aurais pu être prince en Égypte. Être dans le regret de ce que nous n'avons pas. Mais ça peut aussi nous parler de ce sceau, comment la parole de Dieu peut devenir un espace de révélation, de rencontre qui nous fait brûler. Parce que le Saint-Esprit vient habiter la loi pour que ses commandements deviennent source de vie. Est-ce que le buisson ardent peut pour moi, cet espace, ce temps de révélation, être aussi un temps où Dieu ravive ma curiosité? Est-ce que vous êtes curieux de ce que Dieu veut vous dire, veut vous faire deviner? À vous de choisir. Continuer à faire paître les moutons de ce monde ou rentrer dans un temps de révélation avec et pour Dieu. Seigneur, ta parole est vivante et ton Esprit Saint est là pour nous parler. Tu me connais comme tu connais chacun d'entre nous ici présents ce matin. Tu as une pensée précise pour chacun d'entre nous. Tu as des plans qui nous dépassent. Nous avons beau le dire, le prier, et parfois nous les laissons tellement de côté, ces plans et ces pensées. Donne-nous d'avoir la curiosité d'aller à ta rencontre. Donne-nous d'avoir ce désir ardent, aussi ardent que le lieu de ta révélation, de te connaître, de nous laisser connaître par toi, d'accepter que l'Esprit Saint nous révèle ce que nous sommes. Donne-nous, Seigneur, de devenir ce que tu as prévu que nous soyons de toute éternité. Je ne serai peut-être pas un Moïse, certainement pas un Pierre. Donne-moi simplement d'être moi-même, tel que tu veux que je sois, parce que tu m'as racheté pour cela. Amen.